Escalade. La Méridienne.
Et il est temps de retrouver nos invités du jour. Il s'agit de Laurent Fléchier et Agnès Moyencourt. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu nous voir en studio pour nous parler d'un festival qui va avoir lieu dans une dizaine de jours, du 20 au 22 septembre. C'est le Pulsar 717. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est qu'un pulsar? Ce qu'il y a derrière ce mot?
Alors, très simplement, le pulsar, c'est un objet spatial, c'est une étoile. Et sans rentrer dans les détails, ce qui nous a intéressé, nous, c'est que c'est une étoile qui a une pulsation et qui vibre et à une certaine vitesse. Il se trouve que cette vitesse, elle évolue au fur et à mesure du temps. Première chose intéressante, donc c'est très musical et très rythmique. Et puis la deuxième chose, de temps en temps, elle a des comportements un peu étranges. Elle se met à accélérer énormément et les astronomes appellent ça un glitch. Et le glitch, c'est aussi un gros travail dans notre travail artistique, notamment à nous, sur l'erreur et sur la modification. Donc ça nous parlait beaucoup.
Ouais. Le glitch numérique, c'est quand il y a quelque chose qui ne devrait pas y avoir.
C'est ça.
Grosso modo.
Donc c'est ça, on trouvait que ça allait bien.
Vous êtes tous les deux musiciens, mais est-ce que musicien maintenant ça suffit à englober votre pratique artistique? Parce que j'ai l'impression qu'avec le collectif Ligre, on va en parler un petit peu, vous avez dépassé la musique.
Oui, tout à fait, oui. Alors nous sommes tous les deux des musiciens instrumentistes et compositeurs. Et à côté, effectivement, avec le collectif Ligre, on a développé aussi toute une pratique artistique autour de d'autres espaces numériques tels que l'image ou la vidéo, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans une partie de notre programmation en fait.
Ouais. Et le collectif Ligre, en quelques mots pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est un collectif qui regroupe 5 artistes qui cherchent une hybridation entre des formes artistiques liées à l'image, la vidéo, la programmation, le son, l'enregistrement, avec une grosse part de numérique, soit au départ, soit au milieu, soit à la fin. Et donc ça nous amène à des œuvres mixtes, à des œuvres qui mélangent des propos artistiques, à explorer des nouveaux territoires comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, à faire des expositions, des scénographies. Et aussi inventer des diffusions. C'est la partie qu'amène Ligre dans ce festival. C'est cette partie spectacle vivant et cette création mélangée.
Et donc le festival, pour finir de présenter tous les acteurs, il y en a beaucoup, on ne les saura peut-être pas tous présentés, mais il se passe au Hangar 717, c'est dans le nom Pulsar 717, lieu d'exposition culturelle de Villefranche.
Voilà, et puis c'est surtout un lieu d'expérimentation, un lieu d'aventure. Et là, je vais tout de suite remercier énormément Marc Pedoux, qui est le président de l'association et le directeur de la galerie, et toute l'équipe du hangar qui le suit et qui est très investi, parce qu'en fait, c'est lui qui a allumé le feu réellement, puisque ça fait plusieurs mois, plusieurs années que lui a envie. Dans sa jeunesse, il écoutait beaucoup de musique contemporaine, il avait envie qu'il se passe quelque chose dans la lignée de l'expérimentation du hangar et tout ça. Il soutient Ligre depuis le début, on discute, on invente, et puis à un moment on dit bon, on va l'allumer entièrement, et on va mettre le feu et on va allumer un nouveau festival. Voilà, donc c'est comme ça que ça naît.
Et alors c'est quoi le principe de ce festival Pulsar 717? C'est quoi l'idée qui a animé la création de ce festival?
Alors, l'idée, c'est de faire connaître aux plus proches et au public ici, en fait, la musique contemporaine, la musique électroacoustique, des choses qui paraissent parfois loin ou peu populaires, alors que je pense que c'est des œuvres qu'on peut appréhender et ressentir simplement, en fait, sans chercher à expliquer tout ce qu'il y a nécessairement derrière ou pas, d'ailleurs. Et du coup, on a construit ce programme avec chaque fois chaque journée a sa particularité. Donc, sur la première soirée de vendredi, il y aura des pièces solo, des pièces solo pour instruments seuls. Samedi, c'est plus consacré au travail avec l'électronique et la musique mixte, donc des pièces avec des bandes, mais avec aussi du traitement sur des instruments.
Ouais.
Et puis sur le dimanche, eh bien, c'est là où on va avoir un peu un mélange avec, avec des pièces, avec des plus grands ensembles, en fait, avec plus de musiciens qui vont jouer ensemble et défendre ces nouvelles créations. Alors dedans, il y a des choses qui sont du répertoire et puis il y a aussi des compositions qui sont faites pour ce festival.
Pour cet événement-là. J'ai l'impression que dans la progression, ça se complexifie au fur et à mesure. On part de solo duo vers des créations plus complexes.
Alors c'est peut-être pas dans la complexité, c'est dans la masse, c'est ouais. dans la densité, parce que les pièces seules parfois peuvent être aussi complexes parce que le langage tout d'un coup se densifie sur une seule personne. Mais ce qui nous a conduit d'un bout à l'autre, c'est de faire un équilibre entre des choses qui sont très accessibles. Très poétique, très légère, qu'on peut appréhender tout de suite, d'autres qui demandent plus d'investissement dans l'écoute. Mais effectivement, la masse sonore grandit au fur et à mesure. Et puis, je vais reprendre Agnès sur une chose qu'elle a oubliée, c'est que le dimanche matin, on a un moment un peu particulier où c'est le moment du bricolage.
Okay.
C'est-à-dire que, voilà, c'est le moment où on invite aussi le public à venir découvrir comment ça se fabrique et écouter. Parce qu'en fait, souvent, on dit, ouais, la musique contemporaine, c'est compliqué. Mais en fait, il faut juste poser ses oreilles habituelles et faire autrement. Et c'est ce qu'on permet ce matin-là, c'est-à-dire de venir faire, écouter autrement, manipuler des objets qui font du son. Et jouer avec nous et être aussi un acteur de cette musique-là.
Donc, il y aura des installations sonores à partir de 10h, en intérieur, en extérieur. On espère qu'il fera beau.
Ouais.
Pour écouter le son autrement et avoir d'autres perceptions. Et il y aura aussi une balade, ce sera suivi d'une balade dans cette matinée. Il y aura aussi un brunch. Et puis un moment aussi justement où on rejoint aussi Marc sur sa playlist idéale et sur un peu ce qui fait que lui, il a eu envie de se lancer dans cette aventure avec nous et nous faire partager ses envies de jeunesse, en fait, ce qui l'a animé. Et puis ça va commencer avant, on a quelque chose un peu en avance sur le mercredi soir.
Sur le programme, il y a une avant-première. J'allais vous demander, moi, dans les choses que j'avais envie de vous demander, c'était de m'expliquer ce que c'est que la musique contemporaine, etc. Mais vous avez justement dit que le mieux, c'était d'ouvrir ses oreilles et d'écouter. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de ce que ça peut être, pour donner une idée à nos auditeurs de ce dont on parle. Planète Eliac, ça s'appelle. Inutile de régler votre autoradio et non, aucune forme extraterrestre n'a tenté de communiquer avec vous. Vous êtes à l'écoute de Calade dans la Méridienne. Et on vient d'entendre une création, donc je crois que c'est de vous, Agnès.
Oui, c'est ça.
Planète Elia, qui c'est de la musique qui se libère des règles, des.
Tout à fait.
Des 12 notes, du rythme, de. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très libre.
Oui, et Planète Eliac, en fait, elle est. Donc là, vous avez entendu la partie électronique, et elle est pour un instrument, donc il y a une clarinette qui joue avec.
D'accord.
Et la clarinette, eh bien, pour l'entendre, il faudra venir au festival.
Ok, donc en fait, on a entendu presque un seul instrument d'un duo entre l'électronique
exactement.
Et l'acoustique. Ok. Et je comprends votre idée de dire, il faut pas expliquer cette musique, il faut juste l'entendre et puis oublier les codes qu'on a et essayer de voir ce qu'on ressent. J'ai l'impression que ça raconte plein de choses qu'on a entendues et que chacun peut venir y trouver ce qu'il veut. Moi, j'ai entendu des extraterrestres, mais peut-être que les autres ont entendu d'autres choses.
C'est Michel Sion, grand compositeur et théoricien de la musique contemporaine et électroacoustique, qui parle de cinéma pour l'oreille.
Ouais.
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde si on a envie de. C'est comme d'écouter une histoire. Voilà. Alors des fois ça touche, des fois ça touche pas. Des fois on dit bon, qu'est-ce que c'est que ça. Puis d'autres fois voilà. Et parfois c'est même plus compliqué quand on a des codes et quand on a de la culture, parce qu'en fait on veut écouter des choses, on veut trouver des explications qui n'y sont pas, et on perd cette âme d'enfant de découvrir. Et voilà. Des fois moi je regrette de pas être encore un novice
pour tout réapprendre.
Oui, ou pour écouter de manière légère. Et ouais. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye aussi quand on crée de faire ça.
Donc, bah, l'occasion d'entendre des choses et de découvrir des histoires sonores qu'on pourra se raconter, c'est au festival Pulsar 717. Vous allez nous parler d'une avant-première qui va avoir lieu à la librairie des Marais.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez concocté pour ça?
Alors, l'idée, c'était d'ouvrir le festival en le présentant avec un partenaire ami qui suit nos aventures depuis un moment. Voilà, donc qui est le libraire Bertrand Lamure, qui nous accueille ce jour-là. Et il se trouve que dans le collectif Ligre, un des artistes, Jérémy Barraud, on se connaît depuis très longtemps, il est graphiste, mais il est aussi musicien. Et une grande partie de son travail, et notamment de son travail de recherche quand il était étudiant, c'était de travailler sur la notation musicale.
Okay.
Mais pas pour des questions de compréhension musicale, mais pour des questions de graphisme et des questions d'efficacité et des questions de notation. Et donc, un de ses métiers importants, il fait de la gravure musicale et il fait de la mise en page pour des grands groupes internationaux et tout ça. Et pour moi aussi. Voilà. Donc, je suis très heureux de travailler avec lui. Et à tous les deux, on a souvent refait le monde sur pourquoi on écrit la musique comme ça avec cinq lignes, des portées, des notes, et en découvrant qu'il y avait plein d'autres manières de faire. Et donc, on va d'une manière un peu ludique sortir un peu notre trésor et montrer qu'une partition c'est pour comment on note ce qu'on vient d'entendre là, comment on explique, comment on donne à un musicien à jouer des choses qui sortent des codes, comment on invente des nouveaux codes. Et depuis les années 1920-1930, il y a pas mal de choses ludiques à regarder.
Cet été j'ai lu le livre La Horde de Contrevent, où il y a des personnages qui écrivent le vent, s'il y a du vent en permanence, et avec des systèmes de ponctuation, ils écrivent les rafales, etc. Ah. Et c'est passionnant, ça me fait penser à ce.
C'est exactement ça. Et un musicien, lui, s'il va en faire un langage musical, c'est-à-dire qu'il doit être rejoué par quelqu'un d'autre, il va falloir qu'il trouve un codage. Voilà, par exemple, Jérémy Barraud a aidé une compositrice à écrire de la musique pour des cornes de brume de bateau.
Ouais. Okay.
Et donc comment on note justement avec des distanciations, avec des bateaux qui se croisent ou des choses, enfin voilà.
Donc rendez-vous à la librairie des Marais, c'est le
mercredi 19 à 19h. Mercredi 18 septembre à 19h.
Après, il y a différents concerts qui vont avoir lieu, donc du 20 au 22, différents rendez-vous qui sont proposés. J'ai cru comprendre en lisant le programme qu'avant chaque prestation, la scène était proposée au conservatoire, que la jeune génération allait pouvoir se mettre un petit peu en avant et montrer leur travail.
Voilà, tout à fait, parce que tous les deux, nous travaillons aussi au sein de l'établissement au pôle création. Et dans ce pôle, il y a des jeunes compositeurs ou des jeunes musiciens qui travaillent vraiment sur la création. Il y en a qui sont vraiment sur la composition telle qu'on l'imagine, mais d'autres qui sont sur des installations sonores. Et nous avons proposé donc aux étudiants que nous avons de participer à ce festival et de les mettre en avant-première. Okay. Donc chaque jour, il y a un étudiant qui vient présenter, proposer quelque chose à écouter, à entendre, à manipuler parfois,
okay.
dans ce travail-là. Voilà.
Bon, ça attise la curiosité quand on...
ouais, et puis quel meilleur tremplin. Enfin, moi, j'ai eu cette chance à un moment dans mes études d'avoir ces tremplins-là, et en fait, on s'en souvient toute sa vie. Mmh. Et voilà, parce qu'on est en réel, on partage avec des professionnels à côté, et chacun fait du mieux qu'il peut. Voilà, donc ça nous semblait tout à fait cohérent d'aller d'un bout à l'autre de l'expérimentation. Puis des fois, les jeunes, ils nous poussent un peu, quoi, parce qu'ils ont des idées. Voilà, ils sont jeunes, donc c'est bien aussi de les retrouver sur les plateaux.
Il y a d'autres rendez-vous un peu réguliers, intitulé Crossfade. En quoi ça consiste, ces rendez-vous?
Alors, je vais en parler un peu parce que c'est un peu moi qui suis à l'origine de cette idée. On a voulu, surtout dans le festival, dans la programmation, sortir des chapelles, sortir des courants. Voilà, la musique contemporaine, souvent, il y a des lignes, il y a des manières de faire. Nous, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la musique, les musiciens, si ça nous touche ou pas. Et l'autre chose qui nous intéresse aussi, c'est l'ouverture vers des formes moins académiques, que d'ailleurs certains n'appellent pas musique contemporaine, qui pour moi l'est complètement. Et donc, à chaque jour, il y a une partie plus académique, on va dire, qu'on pourrait qualifier comme ça, et une partie plus expérimentale ou plus hors norme. Et l'idée du crossfade, c'est de faire rencontrer un musicien de chaque côté ou des esthétiques qui se croisent. Voilà, et donc ça donne naissance à des mélanges. Okay. Je pense que le plus emblématique sera celui du dimanche, où le prétexte nous a été donné à Lionel Martin, que j'ai invité et qui a accepté l'invitation de venir à ce festival. On se connaît depuis des années, on a jamais travaillé ensemble, donc grand saxophoniste, improvisateur, manipulateur de son, et voilà, plutôt dans la musique très énergique et de création. Et on se retrouve tous les deux sur un répertoire de clarinettes à la fois très savant et populaire des années 30. Mmh. Et à tous les deux, on va prendre ça, on va le manipuler, on va le malaxer, on va faire une nouvelle création qui s'appelle donc Pop Strand Hétérophonie. Parce que l'hétérophonie, c'est un des grands procédés que moi je croyais réservé aux musiques traditionnelles. C'est-à-dire que chacun a la même partition, une seule ligne, mais chacun joue ce qui, comme un peu comme il a envie. Et en mélangeant ses erreurs, en mélangeant ses différences, on crée une nouvelle musique. Et en fait, en travaillant ce projet, j'ai découvert que la musique contemporaine utilise ce procédé depuis un moment aussi. Mmh. Donc la boucle est bouclée, voilà, les musiques populaires, la musique contemporaine, la création, la rencontre de deux mondes, de l'académisme, de l'expérimentation, de l'amplification, voilà.
Tout est possible. Donc
pas de limite.
Crossfade, c'est le terme technique, c'est le fondu enchaîné et ces deux mondes qui peuvent se rencontrer.
C'est ça.
Y a un autre mot qui m'a interpellé dans le programme, c'est quadriphonie. Qu'est-ce que c'est la quadriphonie? Est-ce que c'est le niveau supérieur de la stéréophonie?
C'est une autre manière de diffuser la musique, ouais. Et d'avoir quatre canaux qui sont indépendants, qu'on peut effectivement, on peut, si on en a envie, on peut doubler la stéréophonie, ou on peut l'utiliser comme quatre points monophoniques, et on peut faire circuler le son à l'intérieur. Donc on peut donner des sensations qui sont parfois qu'on retrouve parfois dans les salles de cinéma, mais qu'on trouve assez rarement dans la situation de concert. Ouais. Dans la situation de concert, on met une scène et on fait une façade et finalement alors que c'est de la musique, dans les concerts on trouve rarement ce qu'on peut trouver dans une situation de cinéma, où on va essayer de donner de la profondeur, un espace en fait de diffusion. Et donc c'est pour ça qu'on a opté pour cette option-là, pour avoir ce rendu-là, et parce que tout ce qui est la musique électroacoustique, l'extrait que vous avez entendu de Planète Eliac, ça fonctionne très très bien avec ces systèmes de diffusion.
Mmh. Ça me fait penser, je crois, au Pink Floyd ou au groupe The Who. En tout cas, il y a peut-être une mode où ils faisaient de la quadriphonie dans les concerts. Oui. À mon avis, c'était des moyens... trop important, et que la stéréophonie c'est plus simple. je sais pas pourquoi ça a pas perduré, mais c'était des
Oui, c'est sûrement ça, mais c'est justement dommage parce que, alors, en plus, aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça à faire. Ouais. C'est un petit effort, mais qui, par contre, ouvre un tel champ auditif. Voilà, et c'est, on rejoint le cinéma pour l'oreille, encore une fois. Et ça, c'est vraiment accessible à tous. Mmh. C'est juste, voilà, on va imaginer de comment on installe le lieu. Le lieu vibrant, en plus, le hangar, c'est un lieu vibrant tout seul. Donc, comment on va placer les enceintes? On est en train de travailler sur ça. Comment on installe le public pour qu'il passe un moment à juste se laisser partir avec du son qui vient devant, derrière. Voilà. Et avec un dispositif très simple, déjà, on peut décoller.
Ouais. On a beaucoup parlé de ce que le festival donne à entendre, mais il donne aussi à voir. Il y a une exposition dans le lieu, le hangar 717, c'est une galerie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir tout au long du festival?
Alors ça, en fait, c'était presque le point de départ de l'idée du festival. Je crois que Marc a fait exprès de lancer cette idée, donc on a trouvé le titre après, voilà, de musigraphie. Mais l'idée, c'était d'inviter des artistes qui travaillent l'art plastique, soit en rapport, soit en utilisant le son comme matière plastique, et dans un rapport de ligne, encore une fois, de crossfade, on va dire, hein, voilà, où on perd les repères entre ce qui est une partition, ce qui est un tableau, comment on représente ce qu'on entend, comment on représente une sensation. Et donc, on va avoir des œuvres de Pierre Gallet, qui notamment, qui est aussi un chercheur, mais un acousticien qui a travaillé avec Pierre-Henri. On a des œuvres de Gladys Bréjon et Vincent Goudard, qui forment un duo, qui travaillent sur la représentation du son et sur des choses très numériques et voilà, très très avant-gardistes sur ça. Vincent Goudard travaillant à l'IRCAM, par exemple. Fabienne Chemin, qui, tout en étant une artiste plutôt liée à des choses analogiques, mais à un rapport à la ligne, à l'ancrage, qui vont nous perdre. Et moi, quand je vois les tableaux, j'ai l'impression de voir une partition et j'ai envie de la jouer. Mmh. Et puis, donc, le collectif Ligre, qui va être là aussi, évidemment. Donc Jérémy Barraud qui va proposer une installation encore qui va nous perdre entre ce qui est un objet, une sculpture, du son, pas du son. Sabine Brifox qui a travaillé, donc qui est elle, une partie de son travail sur le design textile et graphique et qui s'est amusée avec la représentation de la partition. Et moi j'ai travaillé sur les cyanotypes et sur l'utilisation en fait d'objets musicaux. Voilà, je vous invite à venir. En tout cas, ça répond complètement, ça résonne avec la musique qui est à côté, qui fera le lien dans le couloir du hangar. Le collectif Ligre va exposer des travaux là plutôt de recherche, justement sur ce qu'est un sonographe, une représentation papier de la musique. Et voilà, c'est ça, c'est ce qui nous permet de passer d'un point à l'autre.
Bon, à découvrir pour le festival Pulsar 717 les 20, 21 et 22 septembre prochains au hangar 717 rue de Tizy à Glaizé. Des concerts, des expositions, des interactions. Il y a un site internet pulsar717.org, un Facebook, un Instagram où on peut vous retrouver en tapant Pulsar 717. Donc a priori, on devrait pouvoir retrouver toutes les dates, les infos pratiques, ouais, etc. Il y a un système de réservation peut-être qui a été mis en place si on...
Oui, alors, donc il y aura une billetterie sur place, ça c'est sûr, mais c'est plus confortable et pour vous, pour le public et pour nous. Vous pouvez aller donc sur le site, vous trouverez le lien vers la billetterie qui est sur Hello Asso. Donc je vous invite à aller sur pulsar717.org, vous aurez toutes les informations et le lien vers la billetterie. Voilà, en disant que aussi on s'est attaché, même si on a des tout petits moyens, mais à faire des tarifs extrêmement accessibles, parce que pour nous l'essentiel c'est que les gens puissent venir. Découvrir cette musique, et il y a un engagement très très fort de tous les professionnels, les artistes qui viennent travailler pour que cette édition puisse avoir lieu. Donc on espère qu'on va trouver notre public et que les gens vont avoir envie de venir nous écouter.
Le public sera au rendez-vous. On va se quitter avec un autre extrait, on va en profiter. Quelques pétales sur le tatami, c'est de vous, Laurent?
Oui.
Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques indices de lecture du morceau? Qu'est-ce qu'on va s'apprêter à entendre?
Eh bien, on peut imaginer que c'est un haïku musical. Voilà, c'est une pièce que j'ai composée pour nous deux, pour basson et clarinette. Donc c'est extrêmement acoustique. Et voilà, c'est l'idée de imaginer. Il y a quelques pétales posés sur un tatami. Il y a un peu de vent qui passe. Et puis voilà, la journée se termine comme ça. Le son accompagne ce mouvement très doucement.
Très bien, on va écouter ça. Merci beaucoup, Laurent, Agnès, d'être venu nous parler du festival Pulsar 717. Quelques pétales sur le tatami de Laurent Fléchier. Quelques pétales sur le tatami.
Calade. La Méridienne.